L'une de mes toutes premières interviews, bien avant la création de Volant, date de 2011. J'étais à San Francisco et j'avais eu la chance de croiser la route d'un des fondateurs de Airbnb. Si vous cherchez sur un moteur de recherche, vous verrez que je n'étais pas très doué à l'époque d'ailleurs. Mais j'étais impressionné et ravi car j'ai toujours trouvé la capacité de Airbnb à créer une communauté de partage vraiment incroyable. Et donc depuis, l'appartement dont je suis propriétaire a toujours été sur Airbnb pour les moments où je suis en vacances ou simplement absent, car cela me permet d'arrondir les fins de mois. Avec ce supplément de revenus, je peux partir en voyage au Japon en 2016 par exemple, sans doute l'un de mes plus beaux voyages. Donc si vous avez une chambre de libre ou si vous partez en week-end, vous avez sans doute vous aussi un Airbnb. Pour découvrir combien pourrait vous rapporter votre logement, rendez-vous sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte. H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant.
Ça fait à peu près un an que MeToo est arrivé et j'ai accueilli MeToo les bras ouverts parce que j'ai une part féminine extrêmement développée. Mais en même temps, ça m'a posé énormément de questions sur la féminité, sur la masculinité, sur les femmes, sur les hommes. Et je pense que c'est donc le bon moment de discuter de masculinité. Et pour cela, j'ai reçu Jerry Hyde, qui est un thérapeute spécialisé sur les hommes, qui est un thérapeute anglais. Et donc ce podcast est en deux langues. Vous êtes sur la version française et il y a évidemment la version anglaise en VO que vous pouvez retrouver sur votre lecteur de podcast. Je vous laisse avec cette conversation. Allez, Volant, c'est parti.
Donc, bonjour tout le monde. Je suis avec Jerry Hyde. Et tu es un thérapeute spécialisé sur les hommes et sur la masculinité. Et on va parler de la masculinité. Et c'est un sujet qui est un petit peu compliqué. Il y a beaucoup de gens qui parlent de féminisme, mais on va parler de l'autre côté, du masculin, des hommes. Donc ma première question, je suppose, c'est pourquoi comme thérapeute, tu t'es focusé uniquement sur les hommes?
Je pense que ça s'est fait comme ça parce que je n'aimais vraiment pas les hommes. J'ai donc commencé ma carrière en travaillant pour un programme qui s'adressait aux hommes violents, qui perpétuaient des violences domestiques. Donc j'y suis allé en m'excusant d'être un homme et en cherchant à sauver les femmes de ces hommes extrêmement violents. Et finalement, très vite, je me suis rendu compte que je ressentais énormément de chaleur, d'amour et de compassion pour ces hommes. J'ai vite compris que la plus grande partie de leur violence venait de leur inhabilité totale à pouvoir s'exprimer, et ils avaient que leur violence pour exprimer leur vulnérabilité. Et quand j'étais enfant, j'ai 50 ans aujourd'hui, donc j'ai été élevé dans les années 60, je me souviens de mon père qui me disait de manière très claire, quand j'allais à l'école, si quelqu'un t'embête, tu tapes, tu frappes, tu attaques. Et personne ne m'a aidé à exprimer une blessure autrement que par l'attaque. Et après, vous grandissez, et qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez être en relation? Donc forcément, j'étais moins dans le jugement par rapport à ces gars. Et il fallait juste leur donner des alternatives pour pouvoir communiquer, et ce programme était incroyablement efficace. Et donc si tu leur donnes des éléments pour communiquer lorsqu'ils sont blessés, ou même juste reconnaître qu'ils sont blessés, la communication, ça vient qu'en deuxième lieu, ça leur fait faire des bons. Et nous sommes tellement coupés de nos émotions que bien sûr que la violence devient une option évidente.
Est-ce que je ressens, enfin, c'est un sujet compliqué parce que le féminisme est tellement présent et je suppose qu'on est tellement dans cette guerre, enfin, et j'utilise le mot guerre de manière intentionnelle, c'est vraiment un combat. Il y a plein de formes du féminisme, mais celle que je vois le plus, c'est les gens qui disent les hommes sont brutaux, les hommes sont comme ci, les hommes sont comme ça. Et on parle uniquement des hommes et à quel point c'est compliqué d'être un homme, mais j'ai l'impression que il y a aussi une bataille pour les hommes à avoir. Parce que, comme tu viens de dire, on explique aux petits garçons qu'ils ne devraient pas pleurer, qu'ils devraient être forts, qu'ils devraient se battre, etc. Et ils accèdent difficilement à leur vulnérabilité. Et moi, j'ai eu besoin de lire ce bouquin sur la vulnérabilité pour y accéder moi-même, pour comprendre. Et même si je l'ai lu, j'ai toujours du mal à pleurer, même quand je suis tout seul. Donc, c'est vraiment ancré en moi. Donc, comment tu penses que les hommes souffrent? Ou est-ce que tu penses que c'est à cause de la société? Qu'est-ce que tu penses de cette bataille entre les hommes et les femmes?
Oui, je suis pas très conscient de ce truc. L'autre jour, quelqu'un est venu dans mon bureau et m'a dit « Où est-ce que t'en es de cette guerre entre les sexes ?» Et je me suis dit « Ah oui, je suis pas du tout là-dedans. Je suis juste dans mon bureau et je reçois des gars, je reçois des hommes. Je ne suis pas trop dans cette rhétorique. Je pense que parler de guerre ou de bataille ou de guerre, c'est un langage assez inflammatoire. C'est très personnel, mais moi, je suis pas du tout dans des batailles politiques sur le genre. Je travaille juste avec des gars, et je travaille beaucoup avec des groupes d'hommes. Et en fait, ce qu'ils viennent trouver, c'est la permission de développer leur côté féminin. Ils viennent, ils s'asseyent, ils pleurent et ils partagent leurs émotions, ils communient. Le masculin a plutôt tendance à s'isoler quand il est blessé. Ce qui est problématique. Et je dis pas que c'est mal. Si tu pars t'isoler et que tu es dans une contemplation, toi et moi on a fait ça. Ça fait partie des pratiques spirituelles où tu pars et tu vas vraiment à l'intérieur de toi. Mais si tu veux vraiment le processer, il faut que tu reviennes avec ça et qu'ensuite tu puisses communier dans un groupe. Donc dans mes groupes d'hommes, on invite les hommes à se connecter à leur féminin sans le labelliser de cette manière. Parce qu'évidemment, dès que c'est labellisé de cette manière, ben les hommes, ils se disent qu'ils n'ont pas du tout envie d'évoquer leur féminité.
En fait, c'est vraiment un point important parce que autant les hommes que les femmes ont des parts féminines et masculines. Mais le problème, c'est que, enfin, pour moi, quand un homme a une part féminine importante, il est probablement gay, qui est en français en tout cas une insulte. On dit sale pédé. Et je ne sais pas si ça tient en anglais, mais je crois que si, en anglais aussi, c'est une insulte. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que les hommes ont du mal à connecter avec leur part féminine. Ou peut-être que les gens ne comprennent même pas qu'on a tous cette part féminine et masculine.
Oui, non, ça c'est sûr que ce n'est pas trop dans notre culture. Si tu regardes en Orient, tu vas trouver ces images, ces grandes icônes, comme Shakti et Shiva, qui vont représenter ces énergies masculines et féminines, comme le yin et le yang, toutes ces images. Et pour moi, quelqu'un qui est sain psychologiquement, c'est quelqu'un qui est équilibré entre ces deux énergies masculines et féminines. C'est pour ça que je suis pas très intéressé dans cette histoire de guerre des genres. Je pense que, qu'en tant que culture, on est totalement déséquilibré et bon, ok, ça va être assez provocatif. C'est assez contentieux. Ça pourrait amener à contention. J'oserais jamais dire une chose pareille si ça venait de moi. Mais ça vient d'une femme, d'une amie. Et on a vraiment besoin de femmes très fortes qui puissent dire ce genre de choses parce que nous, on a trop peur et puis ce serait trop dangereux, en fait. Et ce que je vais dire vient d'une amie féministe qui est venue faire une conférence avec un de mes groupes d'hommes, et elle disait « Le problème, ce n'est pas uniquement que les hommes soient misogynes, c'est que les femmes sont aussi misogynes. » Et là, j'ai fait « Waouh, qu'est-ce que tu viens de dire ? Là, est-ce qu'on peut revenir dessus ?» Si j'avais dit un truc pareil, je serais terrifié des conséquences. Et elle me dit « Bah oui, si la misogynie et la répression ou l'oppression du principe féminin, eh ben, beaucoup de femmes sont misogynes parce qu'elles ne supportent pas que leur homme soit féminin ou ait une part de féminité parce qu'elle va les juger faibles. » Et là, je me suis dit « Waouh !» Je pense à voix haute, mais je me demande si une partie de l'homophobie n'est pas ça, de la misogynie, et qu'on ne supporte pas de voir chez les hommes. Mais il y a aussi un autre sujet qu'on ne regarde peut-être pas assez, c'est que pour moi, ce que je vois en tant qu'homme, c'est que on a donné l'autorisation aux femmes d'être comme les hommes. Et moi, je ne vois pas de célébration, de grande célébration du féminin. Et je pense que tant qu'on n'aura pas adressé ce point, on sera toujours, il y aura toujours un problème. Parce que ça ne suffit pas de dire, bon voilà, maintenant tu peux avoir un job, un costume, tu peux faire tout comme un homme. Parce que finalement, c'est à côté de la plaque pour moi.
C'est exactement ça. D'abord, il faut accepter que, avant d'être une femme ou un homme, tu as un être humain, et donc tous les êtres humains devraient être égaux. Et ça, c'est même pas une discussion. Mais surtout, on devrait célébrer la masculinité et la féminité. Et je suppose que les femmes ont gagné beaucoup de droits et, avec leur combat, et évidemment, c'est génial. Mais quelque part, les hommes ne l'ont pas fait, en fait. Si un homme porte une robe, par exemple, ou s'il porte des talons, ce serait très bizarre.
Oui, mais encore une fois, ce n'est pas un problème de l'homme, c'est un problème de la persécution du principe féminin.
Et qu'est-ce que ça veut
dire?
C'est
pour ça que je dis que je ne suis pas intéressé dans la guerre des sexes. Je suis plus intéressé dans les énergies masculines et féminines, et de savoir comment les équilibrer.
Et justement, je me souviens d'une vidéo où tu parles des hommes comme d'un bateau et des femmes comme de la mer. Un bateau?
Oui, oui. J'étais en train de citer David Deida et il ne parle pas d'hommes et de femmes, il parle d'énergie masculine et d'énergie féminine.
Ah, ok, yeah, oui, bien sûr.
Et moi-même, je fais tout le temps l'erreur parce que c'est tellement facile de glisser dans ce type de langage. Mais c'est plus sain de parler de masculin et de féminin, ou peut-être même que c'est un tout autre sujet. Et j'aime beaucoup Deida. Je ne prendrai pas un verre avec lui, mais j'aime beaucoup ses enseignements, qui sont finalement 25 000 ans de tantra qui ont été reformulés pour la culture occidentale. Et il décrit le principe masculin comme étant un bateau qui veut tracer une ligne droite pour traverser la mer. Et le principe féminin, ben, c'est la mer, qui est incroyablement profonde et complexe et qui peut changer d'une minute à l'autre. À un moment, elle est calme et à un moment, c'est un tonnerre incroyable. Et il nie pas que le bateau est bien et que la mer est mal. Il dit que ce sont deux principes importants. Et je crois qu'une partie du problème dans notre culture est de dire qu'on est tous pareils. Or non, le masculin et le féminin sont deux choses différentes. Et je ne sais pas s'il faut vouloir être tous pareils. Non, on est différents. Le fait de dire qu'on est tous égaux revient à dire qu'on est tous pareils. Mais en fait, non, on n'est pas tous pareils. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose de dire qu'on soit tous pareils. Nous sommes différents.
Et c'est probablement une chose, mais je suppose que les hommes reçoivent des messages qui sont un peu mixtes, parce que on veut que tu sois très sensible, et en même temps, on veut des vrais mecs. J'ai entendu cette chanson qui était « Où sont les hommes ?» et c'est un peu mixé comme message quand même. En fait, si on regarde un homme qui pleure, ça peut être vu comme très beau, mais s'il pleure tout le temps, on risque de penser qu'il est faible. Pareil pour la vulnérabilité.
Oui, finalement, pour les hommes, il va y avoir deux options. Soit on s'effondre, soit on abandonne notre masculinité, on s'autoflagelle et on a peur. Mais on essaie laborieusement de faire en sorte que ça marche. On peut aller dans l'autre sens et devenir hyper agressif, un peu à la Trump, et dans le défi perpétuel. Aucune de ces options est la bonne, bien sûr, mais il y a un lieu entre les deux où tu n'as pas totalement abandonné ton autorité propre et personnelle, ton pouvoir ou ta capacité à communiquer tes besoins. Il n'était pas non plus un branleur qui rentre le soir en mettant les pieds sous la table et en demandant son repas. Vous savez, finalement, les hommes ne travaillent pas assez sur eux-mêmes. Je veux dire, en tant que culture, c'est quoi être un homme ? Je pense qu'ils n'y réfléchissent pas. Et je me rappelle de ce prof de tantra, c'était un homme qui disait « Le tantra enseigne aux hommes ce que les femmes ont toujours su. » Vous savez, le principe féminin a cette connexion innée avec les émotions. Les hommes sont occupés. Voilà, on est occupés à faire des trucs.
Mais les femmes sont occupées elles aussi, non ?
Oui, c'est vrai.
Mais elles sont toujours les connectées avec leur être profond.
Non, mais une partie de leur conditionnement sociétal, mais aussi une partie de leur nature, fait que les femmes sont beaucoup plus matures là-dedans. Et je pense que les hommes devraient s'autoriser à aller là-dedans. En tout cas, pas au UK, en Angleterre. Mais c'est peut-être plus développé aux États-Unis. Mais une grande partie de tout ce qui est développement personnel vient plutôt des États-Unis. Il y a des poches à New York, Los Angeles, San Francisco, mais j'ai entendu que j'ai le plus gros groupe d'hommes au UK. On parle de 30 personnes. Ça fait donc 8 fois 4 groupes, donc 32 personnes. C'est rien. On dit que c'est le plus grand groupe, mais c'est rien du tout. Et la plupart des gens n'ont même jamais entendu parler du groupe d'hommes. Mais vraiment, il faut vraiment travailler sur votre masculinité et un groupe d'hommes, c'est le meilleur moyen de le faire. Venez.
Et en même temps, il y a ce groupe que j'ai vu qui est horrible. Je crois qu'il est leadé par un Canadien où il dit « Oui, on devrait violer les femmes. » Je crois que c'est un groupe Facebook. Hein.
C'est Rouge V.
Je sais pas.
Oui, ça s'appelle Le Retour des Rois, oui, oui.
Ouais, brutaliser les femmes.
Ouais. Enfin bon, tu sais, il vit avec sa mère, donc voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur Rouge V. Il vit avec sa mère, voilà. Désolé, mec. Grandi. Tout ça, c'est vraiment de la merde d'un autre temps.
Tu penses qu'il y a une bataille pour les hommes sur leur masculinité, mais aussi sur leur féminité ?
Se battre. Mais pourquoi se battre ? Pourquoi on aurait besoin de se battre ?
Je sais pas.
Moi, je me bats pour rien. Je suis juste assis dans mon bureau et chez moi et j'essaie juste de devenir quelqu'un de responsable. Et on en a parlé tout à l'heure. J'essaie d'aller voir tout mon côté sombre. Et je vais te dire ce qui a vraiment changé dans mon rapport à la masculinité, c'est que j'ai grandi dans une société, et beaucoup d'hommes s'insurgent contre ça, mais j'ai grandi dans une société où on dit que tous les hommes sont des violeurs, plutôt des violeurs potentiels. J'ai passé beaucoup de temps à me battre contre ça, j'ai été blessé, j'ai passé 35 ans à dire « je suis un gars bien ». Et puis un jour, je me suis réveillé en me disant « ok, je suis un violeur potentiel et je vais arrêter de me battre contre ça, je vais arrêter de dire que c'est faux, je vais arrêter de me plaindre contre ce message que je trouve totalement injuste et je vais plutôt dire « ok ». C'est vrai, je suis un violeur potentiel, mais je choisis de ne pas l'être. Et ça a été un grand tournant pour moi intérieurement. C'est-à-dire que au lieu de continuellement m'excuser d'être un homme, je pouvais marcher dehors fièrement en me disant « Oui, je pourrais violer, je me tiens responsable de cette énergie que j'ai en moi et de ne jamais agir de cette manière ». Et ça a tout changé sur ma sexualité, sur ma vie sexuelle et même l'habilité à avoir une vie sexuelle. Parce que, évidemment, si j'arrête pas de demander pardon, je vais pas rendre ma femme très très heureuse. Vous savez, le genre de truc « Est-ce que tu es d'accord si je fais ça, si... »
Exactement.
C'est pas sexy, quoi.
C'est marrant parce que j'ai pas mal d'amis filles qui se plaignent de leur petite amie ou de leur mari parce qu'en fait, ils leur font l'amour et alors qu'elles auraient envie qu'ils les baissent, quoi. Ça va un peu dans le même sens.
Mais c'est sûr qu'y aller sur la pointe des pieds, c'est pas sexy. Vous devez être responsable de ce violeur potentiel intérieur. Et ça amène du frisson au lit. Et donc en face, il y a quelqu'un en face qui va dire « Waouh, c'est un goût de danger, mais je fais confiance dans cet homme parce qu'il est responsable de lui-même et jamais il va me faire mal et jamais il va dépasser la ligne. » Parce qu'il va comprendre là où j'en suis moi-même, tout en étant juste à la frontière. C'est ça qui est sexy. Et donc beaucoup d'hommes n'osent pas aller là parce qu'ils ont peur de faire mal les choses et d'autres se lâchent totalement et deviennent agressifs.
Ouais, généralement, c'est pas très brillant.
Et aucune de ces options ne fonctionne. Mais avoir peur de sa masculinité ou se demander pardon sans cesse à propos d'elle, ça n'aide personne. Donc, s'il y a une bataille, une guerre, ok, mais dans ce cas-là, c'est à l'intérieur de vous-même. Il faut explorer à la fois ses peurs et son côté animal, parce que la sexualité masculine a plein d'aspects dangereux. Il faut aller explorer ces territoires-là. On en a parlé dans notre discussion précédente. Comprendre cette idée du violeur potentiel et vraiment se rendre responsable de ça.
Oui, c'est vrai. Quand tu regardes le mouvement MeToo, tu peux pas ignorer. Enfin, c'est vrai, ça existe. Et je me demande, c'est quoi ce mouvement? Qu'est-ce que les femmes espèrent des hommes? Comment tu l'expliquerais, toi?
Ben, les femmes demandent justice et se demandent où sont passés les hommes.
Ouais, c'est vrai. J'ai des amis qui sont partis à Berlin. Et à Berlin, tu peux, quand t'es une femme, être complètement nue en boîte de nuit et personne ne va te toucher. Et les femmes sont là, ok, où sont les hommes en fait? Qu'est-ce qui se passe?
Oui, je pense que c'est une très grande frustration. Parce que oui, tout ce mouvement du nouvel homme, enfin je sais même pas si c'est un mouvement ou si on peut l'appeler comme ça, mais tout ce truc sur l'homme qui aide à la maison, qui change les couches, tout ça ok, mais c'est tellement neutre. Et encore une fois, c'est tout ce truc de demander pardon sans cesse, d'être un homme, et soit t'en as rien à foutre, soit au contraire, tu passes ton temps à demander pardon et tu as honte d'être un homme. Et je pense que les femmes en ont assez de ça, elles en ont marre. Et elles ont raison.
Tu penses que les hommes ont été blessés par tout ce mouvement?
Oh là là, je m'en fiche, en fait. Je pense que les hommes ont honte. Et il y a certainement quelque chose de légitime à avoir honte. Mais il ne faut pas avoir honte jusqu'à s'enfuir et se cacher. Tu as envie que la personne dise « Ok, il y a un problème, et là, il va falloir que je fasse quelque chose ». Et oui, bien sûr, les hommes sont blessés, tout le monde est blessé. Mais ça n'est pas une raison pour rien faire. Au contraire, c'est une raison pour aller voir un groupe d'hommes, aller parler et trouver des gens pour se dire, voilà, qu'est-ce qui est en train de se passer? Juste commencer à communiquer. Et le problème, c'est que quand les personnes sont blessées, elles se cachent. Et là, c'est ce qui est en train de se passer. Les hommes sont en train de s'enfuir. Et c'est toujours ce qui se passe, merde.
Oui, tu peux. En fait, je l'ai déjà dit, en fait. T'as peut-être pas fait attention, mais... Mais je l'ai déjà dit. Et comment tu penses que les hommes peuvent accéder à leur vulnérabilité ou leur féminité? Enfin, bien sûr, les deux concepts sont différents, mais...
Oui, c'est toujours une question complexe. Il y a un de mes gars qui vient dans mon groupe, dans un de mes groupes depuis 18 ans maintenant. Et du coup, je lui demande, mais pourquoi tu viens encore? Et il me dit... Si je viens pas ici, ben je vais aller au pub et je vais dire à un copain que ça va pas bien et il me dira ben prends une pinte. T'as regardé le foot samedi? Et la culture qu'on développe dans nos groupes d'hommes, c'est tu viens et tu parles vraiment. Maintenant, c'est vrai que tout le monde n'a pas le temps, l'énergie ou l'argent ou quoi que tu veuilles pour rejoindre un groupe d'hommes. Mais c'est une culture qu'on doit donner à nos enfants, à nos garçons. Il faut les encourager, nos garçons, et c'est là que le changement va s'opérer. Et il faut arrêter de leur donner des messages stupides autour de la violence. Enfin bon, moi, j'ai pas de fils.
Oui, c'est vrai, c'est ce que j'allais dire.
Oui, j'ai évité d'être chien en lit, j'ai deux filles. Et c'est vrai que j'étais tellement soulagé d'avoir deux filles, je me suis dit, oh là là, là là, je vais pas avoir affaire à ce truc père-fils. Non, mes filles, je leur dis rien de particulier, je crois qu'elles s'en sortent très très bien. Je les ai toujours encouragées à être des femmes fortes, ou en tout cas à les amener dans des environnements où c'était le type de message qui était développé. Je les ai toujours traitées avec énormément de respect. Oui, vraiment, si tu veux avoir un buzzword...
Je veux pas de buzzword.
Le respect, c'est vraiment ce qui importe le plus et ce qui change le plus. C'est même plus important que l'amour. Voilà, l'amour sans respect, c'est pas vraiment de l'amour. Tu vois, t'as pas besoin de m'aimer, mais si tu me respectes, on va pouvoir communiquer ensemble. Quelqu'un m'a demandé récemment comment tu disciplines tes enfants. Et je me suis dit, waouh, J'en ai aucune idée, je n'ai jamais discipliné mes enfants. Je leur parle avec respect et il semblerait qu'elles me répondent avec respect. Et c'est pas un truc dépassé que quand je les traite avec respect, c'est ce que vous devriez attendre de n'importe quelle relation. Et sans qu'elles aient compris, puisque dès qu'une relation n'est pas respectueuse, vis-à-vis d'elles, elles vont tout de suite le repérer.
Depuis le début, tu parles des femmes fortes. Mais qu'est-ce que c'est une femme forte exactement? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est d'être un homme fort? Parce que c'est un peu ça qui est le problème, en fait, quelque part. Parce que dans notre culture, c'est être fort, c'est dominer les autres, finalement.
Oui, c'est un bon point, parce que je crois qu'on a des modèles pourris, et disons qu'on a même pas de modèle ou de rôle modèle.
Des cow-boys?
De modèles. On n'a pas de bons modèles. Nos modèles sont totalement dépassés. Attends, c'était quoi la question?
Qu'est-ce que ça veut dire d'être une femme forte?
Pour moi, être fort dans ma masculinité, c'est de ne pas me sentir honteux d'elle. Ne pas demander pardon tout le temps et être OK avec l'idée d'avoir tort. Voilà, ça c'est viable comme solution. D'être OK avec l'idée d'avoir tort et d'être curieux d'être des autres expériences, des expériences des autres. Ça donne beaucoup de force. Plutôt que d'être sur la défensive ou dans le défi perpétuel ou être arrogant. Vous savez, je peux avoir tort, mais j'ai une estime assez bonne de moi-même, que je peux rentrer dans cette pièce et être OK avec le fait d'avoir tort, mais d'explorer cette chose-là, plutôt que d'avoir à lutter.
Est-ce que c'est la même chose pour être une femme forte?
Oui, j'imagine que c'est pareil pour les femmes. Il faut peut-être leur demander. Non, mais par exemple, l'authenticité...
Ça, c'est un buzzword.
Être authentique, ce n'est pas être gentil. Ce n'est pas marcher sur la pointe des pieds, ce n'est pas avoir peur. De dire votre vérité, même si ce n'est pas politiquement correct. Non, il faut aller au-dessus de ça, il faut être courageux. Assez courageux pour dire « oui, je suis cette personne-là, je suis comme ça ». Et parfois oui, et présenter des excuses et écouter l'autre dans ce qu'il a à dire. Mais effectivement, je ne vois pas pourquoi ça serait différent pour un homme ou pour une femme.
C'est vrai. Et dernière question, mais on a regardé ce documentaire ensemble qui s'appelle « The Work ».
Oui, totalement.
Qui est,
tu veux en parler fait, dans quel sens?
Des dangereux, en tout cas qui sont en prison, qui ont tué... qui ont été très violents, et disant c'est un groupe d'hommes. Est-ce que tu peux en parler un tout petit peu? Parce que c'est sans doute quelque chose que les gens devraient voir, autant les hommes que les femmes d'ailleurs. Qu'est-ce que tu penses? Oui, on va voir. Qu'est-ce que tu penses qu'ils essayent d'amener comme message en fait?
Je ne sais pas, j'y ai pas vraiment réfléchi. Évidemment, ça a énormément résonné en moi, et ce que j'ai vu dans ce documentaire incroyable, c'est des gars qui font partie de gangs, incroyablement stéréotypés, mais qui se comportent de manière incroyablement non stéréotypée. Et je reconnais ça dans tout mon travail, dans les groupes d'hommes. Et là, ça se passe en prison. Mais si tu donnes la permission aux hommes d'explorer leur côté plus tendre et plus vulnérable, ce que tu vas trouver, c'est une profonde tendresse. J'ai été interrogé il y a quelques années sur un bouquin sur la masculinité. Et le bonhomme me demande « Quelle est pour toi l'essence de la masculinité ?» Et je lui ai répondu « La tendresse ». Et il était très surpris parce que c'est pas du tout un mot qu'on associe aux hommes. Et vraiment, t'as pas besoin de creuser très très loin dans le cœur des hommes pour trouver cette tendresse. Et c'est peut-être ce qu'on entend par « gentleman ». Il y a une profonde gentillesse et une profonde tendresse que j'ai vue dans ce film entre tous ces hommes. Et tu sais, c'était pas spécialement délicat ou fragile. C'était parfois très dur. C'était de la tendresse dure. Et ça paraît contradictoire. Mais tu vois, c'était parfois... écoute, deviens un homme. Mais c'est pas du tout quelque chose que j'utilise d'habitude. Mais dans ce contexte-là, ça marche. De dire, en fait, t'es un meilleur homme que ça. En tant qu'homme, tu peux être meilleur que ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose que les hommes peuvent faire sans donner honte à l'autre. En fait, les femmes ont un vrai rôle de challenger, de mettre des fils à la société. Mais les hommes aussi ont un rôle. Et donc, on peut pas toujours tout dire. Et par exemple, mon ami féministe qui parlait de misogynie, c'est son rôle en tant que femme de faire ça. Et voilà, les hommes, entre nous, on peut se challenger, te dire « Écoute, t'es meilleur que ça en tant qu'homme » et on va le faire d'une manière qui ne va pas lui donner honte, comme il aurait honte si sa femme lui disait. Parce que si sa femme lui disait ça, il va s'effondrer ou se sentir attaqué. Et voilà, ça c'est notre taf en tant qu'homme. Et c'est pour ça que je ne suis pas trop dans cette compassion pour les hommes de dire qu'on passe un sale quart d'heure. C'est notre rôle de nous challenger entre nous, et dans ce film, j'ai vu vraiment des hommes extrêmement sophistiqués et évolués qui étaient prêts à se botter le cul, mais avec énormément d'amour. Et c'est vraiment ça la réponse, vraiment.
Mais j'aurais dû te demander ça avant, mais pourquoi les hommes se comportent de manière pas très clean? Pas tous les hommes, mais dans le métro, dans la rue. Pourquoi ils sifflent les femmes? Pourquoi, enfin, s'ils sont si gentils, pourquoi ils se comportent comme des porcs?
J'adorerais pouvoir te répondre. J'ai aucune idée.
C'est la culture, c'est...
Oui, peut-être que c'est la culture. Peut-être qu'ils ont peur aussi. Moi, par exemple, j'ai grandi dans une culture où on ouvrait la porte aux femmes. Et je sais qu'aujourd'hui, c'était une sorte de patate chaude que tout le monde se refile. C'est un gros sujet. Disons que ça diminue une femme. Et si moi, j'ouvre la porte à une femme, ou si je lui laisse mon siège dans le métro, c'est pas parce que je la trouve trop faible pour ne pas pouvoir rester debout toute seule, ou pour ne pas savoir ouvrir une porte toute seule. Toutes ces notions un petit peu chevaleresques n'étaient pas pour diminuer les femmes, mais c'était pour les honorer, justement. Et ça a toujours une valeur pour moi. Et s'il y a quelque chose à se dire aujourd'hui, c'est qu'il faut continuer à s'honorer et à se donner du respect les uns avec les autres. Mais je pense que les hommes ont beaucoup plus de travail à faire, et les femmes aussi ont du travail. Elles pourraient continuer à exprimer leur frustration, mais sans être aussi furieuses contre nous. Mais en tant qu'homme, il faut qu'on arrête de se plaindre et qu'on se réveille et qu'on fasse le travail qu'il y a à faire. C'est pour ça que ce film s'appelle The Work, le travail.
Et donc, encore une fois, ce podcast s'appelle Volant, ce qui veut dire claquer la porte à quelque chose. Donc, à quoi tu claquerais la porte aujourd'hui?
Dans ce contexte, non. Ouvrons les portes, au contraire. Mettons les hommes et les femmes dialoguer ensemble. Les hommes d'un côté qui dialoguent entre eux, les femmes d'un côté qui parlent entre elles. Parlons, parlons, parlons. Et mettons cette chose-là en dehors de nous, sur la table. Les gens avalent leur couleuvre et ne disent rien, et ça va pas du tout.
Mais aussi, je suppose, enfin, si je peux me permettre, c'est parler mais sans humilier l'autre. Parce qu'il y a beaucoup d'humiliation, en fait.
Oui, t'as raison. Sans donner honte à l'autre, mais en même temps, parfois, c'est totalement justifié. Parce que si tu te comportes de manière abusive, c'est pas que je recommande que tu sois humilié ou vilipendé, mais il faut que tu restes responsable et comptable pour tes actions. Et je pense que ce qui se passe, c'est que les femmes demandent aux hommes de se tenir responsables et les hommes de se tenir debout et se tenir responsables. Et vis-à-vis de nos frères, nous devons leur dire, écoute, c'est pas bien ça. Ça n'est pas un comportement